France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui,
Philippe Descola, anthropologue.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Expérience ou influence marquante, rencontre décisive tous les vendredis, on rembobine le fil du récit personnel de notre invité pour comprendre ce qui a nourri sa vision du monde, tracé son chemin et comment son histoire résonne avec les grands enjeux de notre époque. Bonjour Philippe Descola.
Bonjour Mathieu Vidard.
Vous êtes un anthropologue, vous avez observé le monde des humains et des non-humains à cheval sur deux siècles, le 20e et le 21e. Vous avez été élève de Claude Lévi-Strauss, votre terrain d'étude a été l'Équateur chez les Amérindiens Achuar. Vous avez passé plusieurs années, c'est là que vous découvrez que la nature n'existe pas. En 2005, vous publiez Par-delà nature et culture et vous êtes devenu au fil du temps une figure majeure de la pensée écologique, une figure active sur des sujets comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou les soulèvements de la Terre. C'est l'occasion de revenir sur votre parcours, ce qui a construit votre engagement. Et votre histoire, Philippe Descola, commence le 19 juin 1949. Voilà ce que l'on pouvait entendre la veille aux actualités françaises.
Neuf ans après l'appel à la résistance du général de Gaulle, des organisations d'extrême gauche et le Parti communiste protestent devant la mairie du 14e arrondissement contre la manifestation RPF organisée à l'occasion du baptême de l'avenue du général Leclerc. Protestation empreinte de calme d'ailleurs et au cours de laquelle la police n'eut à intervenir qu'isolément pour éloigner les plus véhéments. Pendant ce temps, des milliers de partisans du général de Gaulle étaient venus devant le cénotaphe élevé à la mémoire du général Leclerc, écouter le chef du RPF exalter le souvenir de son compagnon d'armes du Fetzan et de Berchtesgaden. Et en dépit des querelles qui s'élèvent autour de son nom, une avenue portera désormais le nom du libérateur de Paris et de Strasbourg.
Voilà, et vous naissez donc le lendemain à deux arrondissements de là, Philippe Descola. Le RPF, Rassemblement du Peuple Français, parti politique créé par Charles de Gaulle en 1947. Est-ce que de Gaulle est une figure importante dans votre famille à cette époque ?
Il était une figure importante, notamment pour ma mère, qui avait une grande admiration pour lui et qui avait vécu l'occupation à Paris et qui était... très admiratif du rôle qu'avait joué le général de Gaulle dans la libération de la France.
Moins pour votre père ?
Mon père était, oui, plus distant vis-à-vis du général de Gaulle. Et comme pas mal de gens à l'époque, il craignait de voir en lui des instincts dictatoriaux. C'est le fait qu'il soit un officier de carrière et qu'il ait, au fond... presque seul, au début, pris sur ses épaules, le destin de la France pouvait paraître à certains un peu inquiétant.
Philippe Descola, si vous deviez décrire votre milieu familial avec l'œil de l'anthropologue, qu'est-ce que vous diriez du groupe social auquel vous appartenez ? Qu'est-ce qui caractérise votre famille ?
Eh bien, je suis né dans une famille de la bourgeoisie catholique, pas très pratiquante, au cœur de Paris, de deux familles, celle de mon père et celle de ma mère, qui étaient pour l'essentiel des serviteurs de l'État, soit des officiers d'active, soit des médecins, soit des intellectuels aussi. Mon père était historien. J'ai vécu presque toute mon enfance et mon adolescence près des Tuileries. J'ai immensément aimé cette ville que j'ai parcourue en tous sens dès que mes parents m'en ont laissé le loisir. Ouais. Environné de livres, très marqué aussi par la musique. Il y avait plusieurs musiciens dans ma famille, par la peinture, il y avait des peintres aussi. Voilà, je suis né dans une famille, j'ai eu le bonheur de naître dans une famille cultivée.
Milieu privilégié.
Un milieu privilégié,
ce qu'on peut appeler l'élite intellectuelle française.
Si on veut, oui.
Ouais. Vous aimez ce mot élite ou pas ? Est-ce qu'il correspond à ce que vous percevez de votre milieu ?
Oui, sans aucun doute. C'est un terme qui désigne bien une couche de la population qui, en l'occurrence, dans le cas de mes parents et de leurs amis, n'avaient pas conscience de former partie d'une élite, et puisque le terme a surtout été employé depuis quelques décennies pour désigner des élites économiques. Et c'était, ouais. Dans ma famille, il y avait une tradition de... d'indifférence à l'argent, nous n'étions pas fortunés, disons, et voire même de mépris pour l'argent qui venait d'une tradition janséniste du côté paternel, disons. Et donc le terme élite, à condition de lui donner le sens de gens qui ont eu la bonne fortune de naître dans un milieu où ils ont fait des études, mmh. et où ils ont fréquenté les musées et les concerts, oui, sans doute.
Est-ce que vous avez l'occasion de fréquenter d'autres milieux sociaux moins favorisés dans ce Paris des années 40-50 ?
Alors, bizarrement, dans le quartier même où je vivais, Paris a beaucoup changé, c'est un truisme de le dire. Je l'ai dit tout à l'heure, je vivais près des Tuileries, dans un quartier qui, à l'époque, était stratifié à la Pérec, c'est-à-dire, vous savez, dans la vie mode d'emploi, Pérec décrit les différents habitants d'un immeuble et leur diversité en fonction des étages où ils habitent. Et c'est exactement comme ça, dans ce quartier, qui, à l'époque, accueillait des populations extrêmement diverses. Et pour donner une anecdote, lorsque j'ai fini mon école primaire, l'un de mes camarades a décidé de ne pas poursuivre, sans doute sous l'influence de ses parents, c'était le fils du bougnat du coin. Le bougnat, c'était, au sens littéral, le marchand de charbon.
C'est lui qui livrait le charbon dans les appartements.
C'est lui qui livrait le charbon dans les appartements, dans les caves. Et donc, je l'ai vu, c'était un grand gaillard, costaud, aider son père à traîner une charrette à bras. Ils avaient chacun un harnais pour livrer des sacs de charbon. Et leur boutique était place du marché Saint-Honoré, qui est devenu maintenant...
Quartier très chic maintenant.
Un quartier extrêmement chic.
Loin de la place Vendôme.
Exactement. Il y a une boutique de mode très chic à la place. Mais c'était encore un univers très hybride, très mixte. On n'était pas très loin des Halles non plus. Et donc il y avait une beaucoup plus grande diversité dans Paris. Et c'est une chose que je regrette beaucoup. Ça m'a beaucoup frappé quand je suis parti en Amérique du Sud et que je suis revenu après plusieurs années. Le contraste m'a frappé à ce moment-là de voir à quel point Paris s'était appauvri en termes de diversité sociale.
Et alors justement, toujours avec l'œil de l'anthropologue, qu'est-ce que ça peut produire précisément un milieu aussi peu diversifié, un lieu aussi peu diversifié en termes précisément de population ?
Alors, je pense que ça... rend aveugle précisément à la diversité et au bienfait de la diversité. L'une des choses qu'on dit quelquefois, je crois que c'est vrai, c'est qu'il y a parmi les anthropologues une plus grande proportion de gens qui appartiennent à des minorités religieuses, culturelles ou linguistiques. Du fait qu'il se trouve dans une situation ambiguë. Lévi-Strauss, qui a très peu parlé de sa judaïté, dit à un moment, la première fois qu'on m'a traité de sale juif à la cour de l'école, j'ai eu un sentiment étrange parce que d'un côté, je me sentais complètement intégré dans cette société républicaine et de l'autre, on me renvoyait à une collectivité à laquelle je ne m'identifiais pas. Et donc, ce sentiment d'être entre deux, et assez caractéristique de beaucoup d'anthropologues qui viennent, par exemple, parce qu'ils sont d'origine juive, soit parce qu'ils sont protestants, soit parce qu'ils viennent de milieux sociaux qui ne sont pas ceux où on a les codes habituels, etc. Mais je pense qu'au-delà de cela, pour être anthropologue, il faut avoir ce sentiment de ne pas être à sa place. Alors, dans mon cas, ça n'était pas socialement ou culturellement. C'était un sentiment insidieux de regarder les choses avec une certaine distance et de ne pas être au cœur de l'action, en quelque sorte.
Donc vous étiez déjà un observateur depuis très tôt ?
Oui, et je pense que ça fait partie des conditions de la profession.
Mais est-ce que le manque de diversité aujourd'hui, c'est un des fléaux au fond de nos sociétés, Philippe Descola ?
Ah, je pense que oui, bien sûr.
Et le manque de mélange entre les populations ?
Je pense que oui, ce manque de diversité, il est fondé sur la... sur la ségrégation, d'abord dans le monde urbain et périurbain, ensuite entre les villes et les campagnes. Au fond, c'est une ignorance. Ce qu'on ignore vous inquiète toujours. Et par conséquent, les réactions très vives qu'on entend depuis quelques semaines à propos de la politique migratoire qu'il faudrait rendre plus ferme, me paraissent traduire à la fois ce mélange d'ignorance et de ce qu'est au fond l'altérité et de volonté de se replier sur un petit monde qui vous est familier, dont on pense incarner les valeurs, même si la plupart du temps les gens qui manifestent ce genre d'inquiétude ou de xénophobie n'ont qu'une idée assez vague de ce que sont ces valeurs.
Philippe Descola, votre rapport à la nature dans ce cadre familial, il s'exprime comment ? Est-ce que vous avez un point d'analyse, d'enracinement en tout cas ?
Alors il se manifeste par le fait que ma famille paternelle, qui est originaire des Pyrénées, même si mon grand-père s'est installé à Paris comme jeune médecin, a constitué un lien avec un milieu particulier qui sont les Pyrénées centrales, l'Ariège, la vallée du Couserans, la haute vallée du Salate, où j'allais régulièrement avec mes parents quand j'étais enfant pour marcher notamment en montagne. Et l'influence de mon grand-père a été prépondérante puisque c'était, je l'ai dit, un médecin qui lisait le latin, le grec, qui s'était mis sur le tard à apprendre le sanskrit, qui lisait la plupart des langues européennes et qui était aussi un botaniste amateur. Donc les promenades avec lui étaient un enchantement parce que non seulement il me désignait les fleurs, les plantes, les arbres en les appelant par leur nom, mais aussi il liait ces plantes à des mythes de l'Antiquité, grecque en particulier, qui enfermaient au fond dans un même espace à la fois la connaissance de la nature, de la taxinomie, c'est-à-dire des classifications d'espèces naturelles, la façon dont on nomme les plantes, oui, mais aussi le contexte culturel de ces plantes, et qui donc reliait le présent et la nature sauvage des montagnes avec un passé très ancien.
Est-ce qu'on peut dire de votre grand-père qu'il avait un lien quasi animiste avec la nature, ou c'est beaucoup dire quand même?
Je crois que c'est beaucoup dire, parce que c'était aussi un médecin, c'était un ophtalmologue.
Donc très rationnel.
Très rationnel, qui avait fait une partie de ses études de spécialisation en Allemagne avant la guerre de 14. Il avait une attirance très grande pour la nature, pour la montagne en particulier, pour les marches en montagne. Mais comme c'était quelqu'un de, je l'ai dit, d'assez janséniste aussi, d'assez religieux, je pense que il y aurait une contradiction entre l'animisme, c'est-à-dire le fait de prêter une intériorité ou une subjectivité à des plantes et des animaux, et puis l'enseignement chrétien.
Ouais. En tout cas, vous disiez que votre père était historien, spécialiste de l'Espagne et de l'Amérique latine, et ça, c'est évidemment un univers qui a nourri votre enfance et votre départ plus tard pour l'Équateur, votre deuxième, on va dire, terrain d'étude, a été aussi directement lié à ce lien paternel.
Oui, j'ai baigné dans les choses hispaniques depuis l'enfance. J'ai appris l'espagnol au lycée. Mon grand-père, non seulement connaissait très bien l'espagnol, mais aussi le catalan, le béarnais, et donc il y avait une façon ludique à la maison d'échanger des propos en espagnol ou en béarnais, et en même temps il y avait la bibliothèque de mes parents en général dans laquelle j'ai puisé très jeune, et notamment tous les livres d'histoire concernant la conquête des Amériques. Mon père a écrit un livre qui s'appelle « Les Conquistadors », qui a eu pas mal de succès lorsqu'il est paru il y a une cinquantaine d'années maintenant.
Donc il y a un terreau fertile là.
Et d'autre part, mon père recevait des amis qui étaient aussi des historiens ou des latino-américains de passage, et donc j'ai baigné assez jeune dans ce monde de l'Amérique latine que je n'ai découvert physiquement que quand j'avais une vingtaine d'années.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Je ne suis certainement pas un homme de terrain. Pour être un homme de terrain, un bon travailleur de terrain, il faut avoir une patience à toute épreuve, qui est quelque chose qui me manque. Je m'irrite trop de toutes les difficultés de la vie quotidienne, de tous les obstacles qu'on rencontre. Alors, je suis très heureux, naturellement, d'avoir fait du terrain, parce que j'ai appris ce que c'est que le terrain. Et je l'ai appris dans des conditions difficiles. Et je ne conçois pas qu'on puisse être ethnologue si on n'a pas une expérience ou plusieurs expériences du terrain.
La voix de Claude Lévi-Strauss au sujet du terrain. Philippe Descola, vous êtes notre invité sur France Inter. Évidemment, le terrain, c'est d'abord l'essence même de l'anthropologie pour vous aussi ?
Oui, bien sûr. Je voudrais juste faire une petite remarque. Il y a un peu de coquetterie chez Lévi-Strauss lorsqu'il dit qu'il est trop impatient pour faire du terrain, parce que lorsqu'on examine ces carnets de terrain qui sont déposés à l'ABN, et lorsqu'on en regarde certains des articles ethnographiques qu'il a publiés avant la guerre, en particulier sur les Boros, on se rend compte de l'extraordinaire méticulosité des enquêtes qu'il menait. Il était attentif à tout, il observait tout, il notait tout. Et sans doute était-il impatient, mais pendant son premier parcours d'impatience, si je puis dire, il était extrêmement attentif aux choses. Alors je crois que c'est indispensable, en effet, parce que c'est un exercice de façonnement de son entendement, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on apprend, là, à abandonner ses certitudes et à s'immerger dans la vie sociale et les systèmes de valeurs d'une autre civilisation.
C'est compliqué, ce détachement-là dont vous parlez, abandonner ses certitudes quand on arrive de Paris au milieu des Indiens Achuar en Équateur.
Alors, c'est pas compliqué en ce sens que c'est très progressif et qu'on ne s'en rend pas compte, mais on ne se rend pas toujours compte du fait qu'on les a conservés ou pas. C'est un long processus réflexif qui commence sur le terrain et qui se poursuit ensuite. Parce que le terrain vous conduit à mettre en question des évidences, des certitudes qu'on avait, et vous ébranle. Donc, lorsque vous revenez chez vous, vous êtes porteur d'un savoir que vous avez en partie intériorisé, en partie intériorisé grâce à une langue très différente de la vôtre, et qui vous fournit des lunettes, d'une certaine façon, pour vous observer vous-même évoluant dans un autre monde. Donc ce dispositif d'extériorité ou d'extériorisation qui est caractéristique de l'anthropologie, on vient de l'extérieur et en même temps on devient extérieur à soi-même.
Et ensuite il faut le théoriser, justement, tout ce matériau-là dont vous parlez, que vous rapportez, il faut en faire quelque chose. Donc ça veut dire qu'il faut poser aussi quelque chose sur le papier, il faut faire des notes, quelque chose qui puisse aussi émaner d'une pensée.
Oui, on passe sa vie à prendre des notes sur le terrain, et ensuite on a cet énorme dépôt en somme d'informations à travers lequel il faut tracer un chemin. Quelquefois c'est très difficile, parce que meilleur on est comme ethnographe, plus il est difficile de s'extraire au fond et de prendre la distance vis-à-vis de la masse des informations qu'on a accumulées. Et donc, il faut être sensible aussi sur le terrain à ce qui vous ébranle le plus, d'une certaine façon. C'est-à-dire, qu'est-ce qui contraste de la façon la plus systématique avec votre propre façon de voir le monde et d'y mener votre vie. Et ce sont ces écarts qui vous frappent, qui constituent en général les leviers les plus pertinents pour ouvrir la boîte à trésors et poursuivre dans une voie particulière.
Et vous, Philippe Descola, qu'est-ce qui vous frappe le plus auprès de ces Amérindiens de l'Équateur ? C'est justement le fait que la nature n'existe pas ?
Oui, ça c'était la première chose et la plus importante, et c'est celle que je n'ai cessé d'explorer au fil du temps, puisque j'étais venu pour étudier leur rapport à la nature avec une certaine naïveté. Donc je savais ce qu'il fallait faire, il fallait les suivre à tout moment dans leurs activités pratiques de chasse, de pêche, d'horticulture sur brûlis, de cueillette, et puis dans les petits rituels qui menaient au jour le jour d'interaction avec les plantes et les animaux, etc. Puis je me suis rendu compte que ce que j'appelais nature n'avait guère de sens pour eux, puisqu'il s'agissait tout simplement d'interlocuteurs non humains avec lesquels ils échangeaient au quotidien. Et c'est ça qui a, au fond, déterminé, j'allais dire, ma vocation non pas ethnographique, mais anthropologique, c'est-à-dire ce que je me suis efforcé de poursuivre et de systématiser au fil des années depuis mon retour du terrain, essentiellement à travers l'ethnographie des autres.
Ouais. Pour ceux qui ne connaîtraient pas votre travail, vos écrits, qui nous rejoindraient là sur France Inter et qui entendraient que la nature n'existe pas, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, très concrètement, pour illustrer ce que vous avez vécu auprès de ces Indiens Achuar.
Si on entend par nature l'ensemble des non-humains, des conditions biophysiques en quelque sorte...
Donc les plantes, les animaux.
Les plantes, les animaux, les milieux, les rivières, les montagnes, etc. Comme un ensemble donc extérieur aux humains sur lequel les humains exercent un contrôle qu'ils cherchent à utiliser à leur profit et dont ils vont soit essayer de comprendre les lois par l'intermédiaire des sciences de la nature, soit sur lesquels ils vont influer par l'intermédiaire du symbolisme. Cette extériorité de la nature n'existe pas chez les Achuar, puisque, encore une fois, les plantes, les animaux, les esprits font partie des interlocuteurs de l'existence quotidienne.
Donc les humains sont embarqués aussi dans ce monde vivant.
Les humains sont embarqués dans un réseau d'interactions entre les humains et tous les autres êtres qui les environnent. Ça ne veut pas dire que les plantes ou les animaux sont sacralisés, puisque on mange aussi bien les plantes que les animaux que l'on chasse, mais on ne les traite pas comme des objets inanimés. On les traite comme des personnes.
Et donc, il n'y a pas de frontière, finalement.
Il n'y a pas une frontière.
Entre le monde culturel humain et le monde naturel.
De la nature. Voilà.
Des autres entités vivantes.
Oui, parce que, en particulier, ce que nous appelons la nature est culturel de part en part. C'est-à-dire que les animaux et les plantes ont une vie sociale, ont des chamans, respectent des règles de parenté, etc., etc. Et donc ça, c'est la chose qui m'a le plus frappé. La deuxième, c'est aussi la façon de construire un collectif qui ne soit pas fondé sur des axes, j'allais dire, nationalistes. Les Achuar sont une société acéphale, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef, qui vivent dispersés, enfin qui vivaient, c'est un peu moins le cas maintenant, dispersés.
Donc il n'y a pas de tête, hein, c'est vraiment...
Il n'y a pas de tête, chaque maître de maison, en quelque sorte, est son propre maître, échange avec ses voisins, il arrive de se faire la guerre aussi, notamment avec les tribus voisines. Donc il n'y a pas d'État, il n'y a pas de prééminence, il y a une certaine domination qui est malheureusement universelle des hommes sur les femmes, mais il n'y a pas d'exploitation de l'homme par l'homme, si je puis dire. Et cette société réussit néanmoins à tenir ensemble sans avoir explicitement de valeurs partagées, si ce n'est la défense de son autonomie, en quelque sorte.
Sur ce rapport, justement, entre les hommes et les femmes, on va entendre Anne-Christine Taylor, votre femme, puisque vous arrivez avec elle à l'été 76 en Équateur. On va écouter un extrait de France Culture en 1980.
Évidemment, le fait de vivre en couple est à certains égards un avantage pour des ethnologues, dans la mesure où ce sont des sociétés en général où il y a une division sexuelle à la fois du travail, de la sociabilité, etc., qui est très marquée. Un homme ethnologue seul, évidemment, n'a pas du tout accès au monde féminin. Et donc, nous sommes évidemment pliés à ces divisions sexuelles. C'est-à-dire que moi, je vivais en grande partie avec les femmes, je travaillais avec les femmes dans les champs,
etc. Vous avez des poteries, tout ça ?
La poterie, j'ai toujours été totalement nulle.
Ça ne s'est pas amélioré.
Pas du tout. En revanche, l'horticulture, j'ai appris, qui est relativement simple. Ouais. Techniquement, j'ai appris à peu près à dominer ces techniques. Tandis que Philippe restait avec les hommes, allait à la chasse.
Moi, j'allais à la chasse.
Plus ou moins mal aussi.
Extrêmement mal. Enfin, j'avais quand même la supériorité sur eux, que j'avais un fusil de chasse, alors qu'ils se servent de sarbacane.
Voilà, Philippe Descola en 1980 sur France Culture avec Anne-Christine Taylor, votre femme. Comment ça, vous aviez un fusil? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le seul?
Non, il y avait des fusils quand même en circulation, mais c'était des pétoirs, ce qu'on appelle des c'est des fusils qu'on charge par la gueule avec un chien, et donc il suffisait que ce soit un peu humide et l'amorce
s'enrayait immédiatement.
Non, l'amorce n'éclatait pas, ne mettait pas le feu à la poudre, ça partait pas, etc. Alors qu'on m'avait offert pour notre mariage un fusil de chasse des amis de la famille de mon beau-père. Pensant qu'un explorateur était incomplet sans un fusil de chasse, et je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas emmener un fusil de chasse, puisque je savais que les Hatchoirs étaient chasseurs. Mais le problème de la chasse, ce n'est pas la question de pouvoir tirer sur un animal, c'est de pouvoir le trouver. Et ça demande un apprentissage très long, et je dois dire que j'ai quitté les Hatchoirs sans avoir beaucoup progressé dans ce domaine.
Donc, séparation entre les hommes et les femmes sur place, il y a peu de mélange.
C'est pas une séparation physique, hein. La maison, ce sont des grandes maisons.
Mais dans les activités, on le voit bien, là, quand
mais
même.
Mais dans les activités, oui, les femmes, soit ont des activités domestiques, soit travaillent dans les jardins qui sont autour des maisons. La plus grande partie de la journée. Et elles font un peu de collecte et de cueillette à l'occasion. Notamment, c'est leur rôle de cueillir des larves de charançon des palmiers, qui sont une des friandises.
Qu'on mange vivant.
Qu'on mange, dans certains cas vivant, dans certains cas cuit avec le cœur de palmier.
Comment on dirait des nouvelles?
C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. En tout cas, c'est une source de gras qui est quelquefois bienvenue.
Donc une source de protéines. Combien de temps vous avez passé là-bas? Donc de 76 à presque 79, presque 3 ans.
Hein, presque 3 ans. La dernière année, nous enseignions à l'université, au département d'anthropologie de l'université de Quito, qui venait d'ouvrir.
Ouais.
Et nos collègues équatoriens étaient des spécialistes des Andes, et ils accueillaient avec curiosité et enthousiasme ces deux Français qui passaient leur temps chez les coupeurs de tête.
Philippe Descola, deux questions. Comment est-ce qu'on quitte un terrain d'études? Comment on quitte une communauté dans laquelle on a vécu pendant presque 3 ans? Et comment est-ce qu'on rentre ensuite en France? Est-ce qu'on se sent complètement transformé? Comment vous avez vécu ça, vous?
D'abord, il y a une question intellectuelle, c'est-à-dire qu'on la quitte au moment où on se rend qu'on... Non pas qu'on sait tout, parce qu'on ne sait jamais tout d'une société, mais au moment où on est de moins en moins surpris par ce qui arrive. Au début, on est constamment surpris par des comportements ou des énoncés, lorsqu'on les comprend, qui viennent à l'encontre, au fond, de tout ce que l'on savait, de tout ce qu'on avait appris auparavant. Et lorsqu'on n'est plus surpris, lorsqu'on arrive presque à prévoir ce que vont faire les gens, l'élément de surprise...
Donc c'est le moment de rentrer, là.
Et alors on se dit, oui, c'est le moment de rentrer. Et lorsque l'on revient, on transporte avec soi le regard qu'on a acquis au fil des mois et des ans. Et donc on regarde sa propre société avec le regard éloigné qu'on avait au départ... pour la société qui nous avait accueillis.
Donc vous devenez l'anthropologue de votre propre milieu, en fait.
On devient presque spontanément l'anthropologue de son propre milieu, mais pas de la façon où on le fait lorsqu'on va sur le terrain, c'est-à-dire pas en prenant des notes, mais en étant constamment saisi par les contrastes entre ce que l'on a vécu et ce que l'on observe, que l'on savait déjà d'une certaine façon auparavant, mais qui vous paraît choquant.
Donc c'est un décalage inconfortable, on pourrait dire?
C'est un décalage extrêmement inconfortable. Je pense que tous les anthropologues le diront, le retour est la période la plus difficile qui soit, parce que tous les aspects les plus déplaisants de notre civilisation vous sautent au visage par contraste avec ce que nous avions vécu auparavant. Je disais tout à l'heure, une société acéphale dans laquelle il n'y a pas de chef, dans laquelle il n'y a pas d'inégalité marquée entre les personnes, dans laquelle l'argent ne circule pas, les gens produisent leur propre subsistance, et donc il n'y a pas cette obsession du fric, il n'y a pas cette obsession de tout transformer en marchandise, qui est une chose qui vous saute au visage avec une violence absolument terrible lorsque l'on revient d'un séjour de ce type-là.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Nous partageons avec les êtres non humains une intériorité, une âme, que nos deux dents sont similaires et que ce qui nous départage, c'est l'habit que l'on porte. Donc on voit bien que c'est à l'inverse de ce que Philippe Descola a défini comme le naturalisme, qui est justement une continuité entre les êtres vivants d'un point de vue biologique, physique, et que ce qui nous départagerait des non-humains serait cette âme, cet intérieur qui serait radicalement différent des autres animaux.
La voix de Nastasia Martin, Philippe Descola, dont vous avez été le directeur. Elle est elle-même anthropologue, spécialiste des populations du Grand Nord. Et donc son terrain aussi, comment ça se passe entre un directeur et une étudiante pour trouver le bon endroit sur lequel travailler précisément, le bon terrain?
En l'occurrence, j'étais ravi lorsqu'elle est venue me voir pour me dire qu'elle voulait faire une thèse, parce que j'étais persuadé depuis longtemps qu'il y avait encore beaucoup de très bonne ethnographie à faire parmi les peuples du Nord, et notamment du Nord de l'Amérique du Nord. Et c'était une montagnarde sportive qui avait déjà bourlingué en Alaska. Nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'il fallait aller chez les Gwich'in, c'était un peuple de langue athapascane dans le nord de l'Alaska. Ce sont des terrains qui sont très difficiles. L'Amazonie, c'est le club méditerranéen à côté.
Vraiment, vous trouvez?
Parce qu'il fait un froid de chien à l'hiver. Ouais. Les communautés qui ont été autochtones, qui ont été frappées de plein fouet par le colonialisme, soit canadien, soit américain en Alaska, sont assez souvent abîmées. Les mécanismes de solidarité sont un peu déliquescents, etc. Donc moi, je serais incapable de faire du terrain dans ces conditions.
Philippe Descola, notre vision occidentale de séparation nature-culture, est-ce qu'elle peut expliquer la crise écologique que nous traversons aujourd'hui ?
Bah, c'est l'idée que je m'en fais, oui, bien sûr. C'est-à-dire que ce qui s'est passé lorsque ce que j'appelle le naturalisme a émergé comme une façon de faire monde, c'est-à-dire de détecter dans les objets du monde une certaine logique qui est précisément que l'exceptionnalité des humains, qui sont les seuls à avoir une subjectivité, une intériorité, le langage, une capacité à symboliser, etc. Et puis le reste du monde. Cette dissociation qui est absolument exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité, je m'en suis rendu compte grâce aux hachoirs d'une certaine façon, parce que j'avais tendance à penser que l'opposition entre nature et culture, qui est un outil intellectuel, un des instruments les plus puissants de la métaphysique occidentale, était universelle. Et c'est les hachoirs qui m'ont dessillé les yeux et qui m'ont conduit à systématiquement faire des enquêtes pour m'apercevoir que ce n'était pas le cas. Eh bien, cette façon de voir les choses, qui est propre au monde moderne, et d'ailleurs nous sommes modernes parce que nous croyons que la nature existe, a eu comme résultat de considérer que les non-humains étaient exclusivement des ressources, des êtres privés de subjectivité, justement.
Et utilitaires.
Et utilitaires. Et donc, lorsqu'on souligne, pour protéger la nature, les services écosystémiques que la nature rend, encore une vision utilitariste.
C'est un terme qui vous agace.
C'est un terme qui m'agace. Et donc, cette façon de voir les choses a été la condition nécessaire pour l'émergence du capitalisme, c'est-à-dire pour la mise au travail, au fond, des non-humains et leur transformation en marchandises systématiques dans une série dans laquelle on ne va pas, d'événements et de circonstances dans lesquelles on ne va pas rentrer. Donc, le naturalisme, en ce sens-là, et la séparation des humains des non-humains est quelque chose d'absolument central.
Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler aujourd'hui si on veut essayer de traverser cette crise ?
Je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler.
Comment on y travaille ?
Alors il y a beaucoup de façons d'y travailler.
Comment on renoue les liens ? Parce que c'est ça dont il s'agit.
On peut les renouer à titre individuel, c'est-à-dire en étant conscient de ce que nous ne sommes que des particules élémentaires à l'intérieur d'un vaste ensemble, et que d'ailleurs en tant que tel nous ne sommes des sujets que par approximation, puisque nous sommes nous-mêmes composés de milliards de bactéries, donc d'autres êtres qui nous relient à d'autres formes de vie, etc. Mais je pense que une façon peut-être de procéder, puisque le naturalisme a consisté à désubjectiver les non-humains, c'est très de resubjectiver les non-humains.
Donc c'est-à-dire redonner une quoi une
pas nécessairement considérer que les harengs ou les bactéries ont une âme, mais essayer de les voir comme ayant des dispositions intérieures, une capacité d'autonomie en quelque sorte, avec laquelle nous devons compter. Et c'est pour ça qu'une des choses que je trouve intéressante de ce côté-là depuis quelques décennies, c'est par exemple ce mouvement qui consiste à donner une personnalité juridique à des milieux de vie.
À des entités vivantes. À des rivières, par exemple.
À des rivières, des bassins,
des montagnes.
À des bassins versants, qui sont des lieux qui hébergent à la fois des humains, mais aussi des non-humains, et qui, de ce fait, deviennent des sujets autonomes, hein, qui sont évidemment représentés par les humains, parce qu'on n'a pas encore trouvé les moyens de faire parler une rivière. Mais
en tout cas, ils sont protégés juridiquement.
C'est plus qu'ils sont protégés juridiquement. Ils sont des sujets juridiques. C'est ça la différence. C'est-à-dire, les milieux de vie en tant que tels sont des sujets de droit, et donc ils peuvent exiger au fond le respect de leurs droits dans une cour de justice. Et ça, c'est quelque chose de fondamental.
Philippe Descola, on va rejoindre une ZAD que vous connaissez bien, celle de Notre-Dame-des-Landes, extrait d'un reportage de 2012, et on en parle juste après.
Des dizaines de fourgons et au moins 500 gendarmes à l'assaut du bocage de Notre-Dame-des-Landes. Les caméras ne sont pas autorisées à filmer la suite. À ce moment, les forces de l'ordre pénètrent dans les cabanes et les fermes pour déloger les occupants installés illégalement.
Il y a eu des violences au sens où ce matin, ils ont détruit des vitres face à nous, quoi, parce qu'on ne voulait pas sortir la cabane à 6h30 du matin, et qu'ils nous ont complètement gazés à l'intérieur des cabanes pour nous forcer à sortir.
L'opération de ce matin est le dernier round d'un bras de fer qui dure depuis plusieurs mois. Des centaines de personnes, dont certaines se disent anarchistes ou anticapitalistes, se sont installées sur le site qui doit accueillir le nouvel aéroport international de Nantes, un projet qu'ils jugent inutile et dangereux pour l'environnement.
Voilà, ça c'était en 2012, et donc 6 ans plus tard, finalement, le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, annonçait l'abandon définitif du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Philippe Descola, quel lien entre les Amérindiens Hatchoirs et les militants de cette ZAD de Notre-Dame-des-Landes, vous qui êtes allé sur le terrain à plusieurs reprises?
Alors, j'ai pas fait du terrain
en tant qu'ethnologue
à Notre-Dame-des-Landes, mais
vous êtes allé sur le terrain quand même.
J'étais rendre visite aux habitants de Notre-Dame-des-Landes parce que ça me paraît être un projet très intéressant. J'allais dire presque pour la première fois, en tout cas, un combat écologique qui consiste à empêcher un aménagement pharaonique, coûteux et inutile, débouche sur la création d'une nouvelle forme de vie collective.
Parce qu'ils sont encore sur place.
Ils sont encore sur place et ils essayent de créer une vie collective qui tourne le dos précisément au fric, au profit, au capitalisme, et qui est fondée sur la restauration d'usages anciens qui sont des pratiques d'agriculture et d'élevage qui étaient pratiquées dans la région, mais fondées sur l'entraide et la nécessité de produire une subsistance pour l'autosuffisance et pas
donc
pour
c'est comment on fait communauté, comment on arrive à inventer une nouvelle communauté,
comment on arrive à inventer une nouvelle communauté qui a ceci d'exceptionnel que ses membres ont développé des liens personnels très puissants d'identification avec les non-humains du bocage et qui se sentent comme faisant partie précisément de ce tissu d'être qui constitue le bocage. Donc on revient à ce que l'on disait auparavant, ils sont parvenus au fond à retisser, à recoudre cette séparation entre nature et société, entre humains et non-humains, et ils l'ont fait par la pratique, c'est-à-dire à la différence de ce qui se passe parmi les populations autochtones, où c'est simplement un mouvement que la tradition rend possible, comme chez les Atchouars. Là, ces gens qui sont pour beaucoup des urbains au départ, ont réussi, au fond, à tisser des liens avec les non-humains et à fonder sur ces liens d'affection et de respect une façon de vivre radicalement différente de celle que nous connaissons alentour.
Et ce sont des expériences, en tout cas, de résistance aussi, hein, qui se multiplient partout en France. On voit avec le nombre de luttes qui existent, hein, on aurait pu citer l'autoroute à 69, parce qu'on a exactement le même profil aussi, avec des gens qui sont sur place pour essayer d'arrêter, en tout cas, malheureusement, sans beaucoup de résultats.
C'est avec beaucoup moins de résultats que le cas de Notre-Dame-des-Landes. On n'est pas toujours gagnant dans ce genre d'opération.
Quel regard vous portez, d'ailleurs, on entendait la violence de la répression sur la criminalisation aujourd'hui des mouvement écologiste. Quel regard vous portez-vous là-dessus ?
Il me semble que cette criminalisation est un symptôme du fait que les classes dirigeantes et l'appareil d'État ressent une grande inquiétude devant des formes d'autonomie qui sont insupportables lorsque on conçoit les démocraties libérales comme des systèmes extrêmement encadrés dans lesquels le conformisme des pratiques et le respect de certaines règles collectives apparaît comme fondamental. En l'occurrence, il me semble que c'est plutôt un mouvement de panique de la part de l'État que le durcissement à la fois de la répression et la qualification comme éco-terroriste de gens qui veulent simplement mener une vie différente de celle de la plupart de leurs concitoyens.
Vous qui avez un regard à la fois sur le 20e et le 21e siècle, est-ce que la dévastation du monde va en s'accélérant selon vous ou pas ?
Je pense, oui. Le grand problème de la lutte sociale et politique et écologique, cosmopolitique si on veut, c'est que cette dévastation, elle avance à tout petit pas et sans être toujours nécessairement visible. On en prend la mesure simplement que dans certaines circonstances. Alors, il y avait cette expérience dont on a beaucoup parlé, qui est celle de partir en vacances en voiture et de se retrouver à l'heure actuelle pratiquement sans un insecte pendant l'été sur son pare-brise, alors que quand j'étais enfant, les pare-brises étaient encombrés d'insectes.
C'est l'illustration d'un effondrement.
C'est l'illustration d'un effondrement. Donc, l'on mesure, parce qu'on a les rapports du GIEC, on a les rapports de l'IPBES sur l'effondrement de la biodiversité et sur les effets du réchauffement climatique. Mais il faut des petits éléments de ce type-là pour se rendre compte que ce mouvement de dévastation est en cours. Et puis, il faut voir aussi les effets. Ça, on le voit dans les pays du Sud, ces gigantesques mines, par exemple, dans les Andes, détruisent... je parle des Andes parce que c'est un monde que je connais, on pourrait dire la même chose pour le Canada ou l'Australie, qui détruisent des centaines, des milliers d'hectares. Et donc cette dévastation-là, elle est visible. Mais le problème, c'est que elle n'affecte que très peu au quotidien la vie des gens.
Ça dépend des endroits. Hein.
Ça dépend des endroits. Oui, bien sûr. Je parle des pays tempérés, en Inde ou au Pakistan, où les températures dépassent dans certains endroits 50 degrés. C'est tout à fait différent.
Vous l'aimez, le monde dans lequel on vit aujourd'hui ? Enfin, vous vous sentez bien dedans ou...
Non, je ne me sens pas bien dedans. C'est la raison pour laquelle je soutiens... vigoureusement des initiatives, des expériences politiques comme celle de Notre-Dame-des-Landes, parce qu'il me semble que c'est une façon, parmi d'autres, d'essayer d'inverser la marche vers l'abîme.
Merci Philippe Descola. Les Cahiers de Lerne publient justement un cahier qui vous est consacré, auquel vous avez participé. C'est la meilleure chose à lire, je pense, en ce moment pour mieux vous connaître. Donc c'est sorti en librairie aux éditions de Lerne, ces cahiers autour de vous. Philippe Descola, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Aujourd'hui, cette émission a été réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Anna Massardier. Et on termine, comme tous les jours, avec vos messages dans le répondeur de La Terre au Carré.
Oui, bonjour, je suis Laurence de Pau, j'écoute France Inter là. Et tout d'un coup, j'entends le début d'une pub qui dit, presque littéralement, cet hiver, certains seront sous la pluie. Alors, j'ai cru naïvement que ça commençait par être un message de sensibilisation au sort des personnes vivant dehors, voilà. Mais non, pas du tout. C'était une pub pour Air Canada, pour pas envoler cet hiver vers le Canada et profiter de la neige. Non, mais c'est du délire. Excusez-moi, mais c'est plus possible des choses comme ça. Merci et bonne journée.
Coucou la Terre au carré, c'est Nils de Clisson. Avec toute mon équipe, on vous invite à la première édition du Festiverde, un festival qui met à l'honneur la nature en ville. Nous célébrerons ensemble l'apport des arbres et du végétal en milieu urbain. Tout est gratuit et accessible pour les grands et les petits. Ça se passe les 18, 19 et 20 octobre à Clisson, en Loire-Atlantique. Toutes les infos se trouvent sur notre site www.festiverde.fr. On espère vous y retrouver pour bien commencer les vacances de la Toussaint.
Bonjour, Hervé de Réloir. Je viens d'écouter votre émission avec Gaspard Koenig. Je souhaitais réagir à votre propos disant que l'enjeu de l'agriculture est de sortir de la monoculture pour aller vers l'agroécologie. En me promenant au juin dernier, entre deux villages distants d'environ 3 km au cœur de la Beauce, j'ai compté 14 cultures différentes dans les champs. Est-ce que nous vivons dans le même monde ? Je constate que contrairement à certaines idées reçues que vous entretenez dans votre émission, l'agriculture a beaucoup évolué ces 10 à 20 dernières années, et elle doit continuer de le faire. Pour reprendre votre formule, j'invite certains milieux intellectuels et militants à sortir de leur monoculture idéologique pour être plus proche de la réalité du terrain.
Mathilde Sormedard de Guizière en Libournais. Nous sommes cofondateurs d'un tiers-lieu rural pour le SS départemental en Gironde, l'usine végétale. Les tiers-lieux, c'est un projet formidable. Il faudrait juste ne pas oublier qu'ils ne sont pas juste un projet politique, mais bien avant tout un engagement qui vient des citoyens. Et aujourd'hui et maintenant, il faut absolument se concentrer sur l'effondrement des financements publics et penser aux hommes et aux femmes qui œuvrent pour les territoires et trouver de nouvelles solutions pour pouvoir continuer à financer ces projets magnifiques et d'avenir et dont on a tant besoin. Au revoir.
Jean-François, Saint-Jean-Saint-Nicolas dans les Hautes-Alpes, c'est formidable. Je viens d'entendre la publicité d'un de vos annonceurs à l'antenne cet hiver. Il y en a qui seront sous la pluie. Et il y en a qui seront sous la neige. Envolez-vous pour l'Alberta, les Grandes Rocheuses au Canada. Waouh ! Y aurait-il une relation de cause à effet ? Aux informations juste après, qu'est-ce que l'on entend ? L'ouragan le plus dévastateur du siècle vient de toucher la Floride. Et ça continue. Comme disait ma grand-mère, eh bien on appelle cul sorti des ronces. Bonne journée.